Badania europejskie.
Rozumienie da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Partout en Europe, sauf à de rares exceptions, les partis populistes et de droites extrêmes progressent. Dopés par l'arrivée des migrants et des réfugiés, la droite radicale s'enracine sur notre continent. Mais tous les partis d'extrême droite ne se ressemblent pas, même s'ils sont tous nationalistes, eurosceptiques, anti-immigration et vent debout contre le multiculturalisme. La crise économique et le chômage n'expliquent pas tout. Le succès des partis de droite extrême repose aussi et peut-être d'abord par le sentiment d'une perte d'identité des Européens. Bonjour Jean-Yves Camus.
Bonjour.
Vous êtes politologue, chercheur associé à l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, mais pas seulement. Vous êtes aussi directeur
de l'Observatoire des Radicalités Politiques à la Fondation Jean Jaurès.
Et vous venez de publier au Seuil un livre qui a pour titre et qui a servi de titre aussi pour notre émission, Les droits droites extrêmes en Europe. Les Herman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-hongroise, doctorante et enseignante au LSI, le London School of Economics, et vous avez travaillé notamment sur l'extrême droite en Hongrie. Merci d'être en ligne de Budapest. Et à Berlin, nous retrouvons Pascal Thibault, le correspondant de RFI en Allemagne. Bonjour Pascal, guten Tag.
Bonjour, guten Tag.
Comme à l'habitude, je recommande votre blog L'Allemagne hors les murs sur le site RFI.fr. Alors Jean-Yves Camus, depuis une dizaine d'années, on parle de plus en plus de la montée des droites extrêmes en Europe. Pourtant, comme vous l'expliquez dans votre livre, l'extrême droite et l'Europe, c'est une vieille histoire qui remonte même bien avant la Deuxième Guerre mondiale.
Ah, c'est effectivement une histoire très très ancienne, notamment l'histoire de cet accaparement de la notion de civilisation européenne par des mouvements qui se situent à la droite des droites. Ceci étant, il faut savoir ce que l'on entend par Europe. Toutes les visions de l'Europe coexistent à l'intérieur du champ des droites extrêmes. La vision souverainiste qui cherche à déconstruire l'Union européenne et à en revenir aux États-nations indépendants les uns des autres, mais aussi de façon plus paradoxale, la vision fédéraliste de gens qui pensent qu'au contraire, il faut pousser le fédéralisme jusqu'au moment où l'Europe éclatera en des entités qui conjugueront l'homogénéité géographique et l'homogénéité ethnique. Il y a une tentation de l'Europe des ethnies, de l'Europe des de l'Europe superposant la notion d'identité, celle de religion, celle d'ethnie. Qui existe, c'est une fraction minoritaire.
Il y a deux visions l'Europe pour l'extrême droite.
Ça veut dire que pour un parti comme la Ligue du Nord, par exemple, en Italie, l'Europe n'est pas nécessairement à jeter. On est là assez loin de ce que peut dire un parti souverainiste classique. Pour la Ligue du Nord, ce qui importe, c'est qu'il y ait une entité géographique qui rassemble les supposés padaniens. Enfin, ma grand-mère est de Varèse, mais elle devrait savoir ce que c'est que les padaniens. On a juste un mot qu'on n'a jamais entendu prononcer à la maison. Donc, c'est une identité un petit peu mythique.
Voilà. Du nord de l'Italie, en tout cas.
Oui, les Italiens du Nord, qui devraient avoir leur propre territoire, leur propre État. Et puis, à côté, il y aurait les Italiens du Sud, qui auraient le leur. Et puis, à côté, encore, il y aurait un grand ensemble germanophone. Et puis, de l'autre côté, les Slovènes. Et tout ça, ça commode très bien. C'est pas nécessairement une volonté d'en revenir au souverainisme intégral et à la fermeture des frontières. C'est le fait de dire, sur un territoire donné, il doit y avoir une ethnie. Alors évidemment, la question qui surgit tout de suite, c'est de savoir ce que c'est qu'une ethnie. Est-ce qu'on peut encore, en 2016, considérer qu'il y a des peuples qui seraient ethniquement, j'allais dire génétiquement, inchangés depuis la nuit des temps? On voit à l'extrême droite des gens nous dire que l'homme européen n'a pas changé depuis 30 000 ans. Ça quand même nous ramène à l'homme des cavernes. C'est évidemment totalement fantasmé.
En tout cas, l'invention de l'extrême droite, ça s'est fait en Europe. Ça s'est fait même, vous l'expliquez un peu, en France, lors de la Constituante, sur les bancs de la Constituante.
Ça, c'est une localisation à l'intérieur de la salle de la Constituante. Il y a effectivement des gens qui se mettent à gauche, d'autres à gauche de la gauche, et puis il y a des gens qui se mettent à l'extrême droite de l'hémicycle, et c'est à partir de là que ceux qui étaient les plus opposés aux valeurs révolutionnaires sont assimilés en fait à l'extrême droite, terme que d'ailleurs pratiquement tout le monde récuse. dans cette famille politique. Alors souvent, par provocation, on voit effectivement quelques groupes radicaux dire « bah oui, on est l'extrême droite ». Mais au fond, chacun cherche à s'en défaire de cette espèce de sparadrap, notamment dans la période postérieure à 1945. Il est bien évident qu'il vaut mieux, pour ne pas que les réminiscences du fascisme ou du national-socialisme vous collent à la peau, essayer de se décrire comme des droites nationales, nationalistes, patriote.
Souverainiste.
Souverainiste, mais attention au souverainisme. Le souverainisme n'est pas en lui-même la preuve d'une appartenance à l'extrême droite. Il y a des souverainismes de gauche, des souverainismes d'extrême gauche, et puis il y a aussi des souverainismes de droite, mainstream. Monsieur Dupont-Aignan n'est pas un homme d'extrême droite.
Monsieur Chevènement est un souverainiste de gauche.
Et Monsieur Chevènement n'est pas évidemment un homme d'extrême droite, mais un souverainiste de gauche.
Quelle différence faut-il faire entre l'extrême droite et le populisme ? Est-ce que ça se recouvre ? C'est la même chose ou pas tout à fait ? C'est difficile ?
Écoutez, parmi les spécialistes de ce champ, en tout cas dans la science politique, on est un certain nombre à être de plus en plus sceptiques quant à l'opportunité de parler à tout bout de champ de populisme. C'est une catégorie qui devient tellement proliférante et tellement vaste qu'elle rencontre de phénomènes qui n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Il n'y a pas grand-chose de commun, à vrai dire, entre les caudillismes latino-américains, qui sont incontestablement des populismes et qui peuvent être catalogués à gauche, ou gauche à veste, ou catalogués à droite, et la Ligue du Nord, encore une fois, le Front National et le parti de M. Wilders. Il n'y a pas davantage de logique à considérer que M. Mélenchon représente, par ce qu'il en appelle au peuple, un populisme semblable à celui de Mme Le Pen. Donc c'est une catégorie qui, à vrai dire, me semble devoir être prise avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Il y a, à l'extrême droite, un certain nombre de déterminants qui sont beaucoup plus précis que le terme de populisme, qui au fond ne désigne guère qu'un style de gouvernement qu'on applique. Alors, on l'appliquait à M. Sarkozy, à Silvio Berlusconi, à des quantités d'autres. L'extrême droite, c'est quoi ? C'est un minimum commun qui comprend le nationalisme, qui comprend cette idée absolument centrale que la société est comme un organisme vivant. Ce qu'on appelle la vision organiciste de la société. Dans cette idée-là, la société est donc comme un corps, et lorsque vous y introduisez un élément étranger, vous créez du désordre. Cet élément étranger, cela peut être une culture étrangère, cela peut être une population étrangère, cela peut être une catégorie qui ronge de l'intérieur le corps, c'est la métaphore qui a beaucoup été utilisée dans les années 30 pour désigner les juifs, et que certains utilisent aujourd'hui pour désigner nos compatriotes musulmans. Il y a aussi cette idée selon laquelle c'était mieux avant, une nostalgie d'un passé mythifié. Ça, on sait exactement que ce sont des idées que l'on retrouve dans pratiquement tous les mouvements d'extrême droite. Mais le populisme, ma foi, ça, c'est quelque chose de différent qui consiste à contester le primat de la démocratie telle que nous la pratiquons, la démocratie participative ou la démocratie parlementaire, pour en appeler à un lien direct entre le peuple et le chef, en passant par-dessus des corps intermédiaires et
comme
du Parlement.
Comme le Parlement, par exemple. Alors, en Hongrie, Liserman, par exemple, est-ce qu'on fait cette différence entre droite et extrême droite, entre droite populiste et extrême droite, c'est-à-dire entre le Fidesz de Viktor Orban, qui est au pouvoir, et le Jobbik, dont les militants arborent volontiers des tenues paramilitaires?
Il y a une distinction, mais elle tend à s'affaiblir depuis 2010 et depuis les révolutions constitutionnelles qui ont été mises en place par le gouvernement Fidesz. Donc le Fidesz a repris énormément des thèses et des propositions, d'ailleurs du programme du Jobbik depuis 2010. Par exemple, faciliter l'acquisition de la nationalité par les minorités hongroises à l'étranger.
Qui sont en Roumanie, qui sont en Serbie, qui sont en Slovaquie, par exemple.
Voilà, exactement. Ce qui était une proposition phare du programme du Jobbik depuis longtemps. Il y avait aussi, par exemple, l'anniversaire du jour de Trianon, qui est devenu une fête nationale. C'était également très important pour le Jobbik. Le christianisme est devenu une valeur fondamentale dans la Constitution, comme le demandait le Jobbik. Le Jobbik a voté 41% des lois du Fidesz entre 2010 et 2013. Donc il y a énormément de connivence, si vous voulez, entre les deux parties.
On sent que l'un déteint sur l'autre.
Oui, l'un déteint sur l'autre. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que récemment, on a d'ailleurs une tendance du yobik à se déplacer vers le centre. Du fait, parce que justement, il se fait dépasser sur la droite par le Fidesz.
Ce qui fait qu'on peut imaginer à terme peut-être une fusion entre les deux parties. On verra peut-être dans un deuxième temps, dans la deuxième partie de l'émission, si c'est envisageable. En Allemagne, Pascal Thibault, on a assisté en quelques mois à la transformation d'un parti populiste, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas d'un parti qui était très anti-euro, la monnaie européenne, en un parti franchement de droite extrême, et ce parti c'est l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne. Cette transformation s'est passée lors du dernier congrès de cette AfD où la leader, je ne sais pas si se prononce bien son nom, Frauke Petri, a pris le pouvoir et a chassé les anti-euros pour finalement s'affirmer comme un parti d'extrême droite avec des revendications qui font parfois frémir en Allemagne.
Oui, effectivement, ce parti n'est pas très ancien, il est né il y a 3 ans, durant la crise de l'euro, avec des dirigeants issus de milieux bourgeois, universitaires, et qui menaient effectivement campagne contre l'euro, contre les remèdes pour eux trop dangereux pour sauver la monnaie européenne menacée. Effectivement, il y a eu une droitisation avec une prise du pouvoir des plus radicaux au printemps dernier, qui a également coïncidé avec le début, surtout l'été dernier, de l'arrivée massive de réfugiés en Allemagne, sujet évidemment, dans le cadre de cette droitisation, est évidemment massivement exploité par ce parti qui a failli rentrer au Bundestag, il faut le rappeler, lors des dernières élections générales de l'automne 2013 et qui a fait son entrée depuis dans plusieurs parlements régionaux et qui s'apprête à le faire lors des élections du 13 mars dans 3 autres parlements régionaux allemands. Donc il confirme son implantation et les derniers sondages montrent presque semaine après semaine une augmentation du poids de ce parti qui atteint entre 10 et 12% selon les sondages, jusqu'à 17 même dans la région où il est le plus fort, à savoir l'ex-RDA, dans la région, dans le Land où on votera, dans cette partie de l'Allemagne, la Saxe-Anhalt, le 13 mars.
Alors, en vraiment quelques mots, il y a en Allemagne plusieurs versions de l'extrême droite. Évidemment, l'extrême droite issue des mouvements nazis, c'est le NDP, et puis un mouvement Pegida qui, là encore, est un parti anti-immigration, né de la peur de l'immigration.
Tout à fait. Le mouvement Pegida, justement, n'est pas un parti. Pour l'instant, cette option n'a pas été retenue. Elle est assez peu plausible, notamment aussi en raison du fait qu'il existe déjà un parti qui occupe ce créneau, à savoir maintenant l'alternative pour l'Allemagne. Le mouvement anti-islam Pegida est né à Dresde, la capitale de la Saxe, à l'automne 2014. Il flanchait considérablement entre le printemps et l'automne de l'année dernière, mais il a connu un revival, un renouveau avec l'arrivée des réfugiés qui, évidemment, lui a fourni des munitions pour attirer de nouveau beaucoup plus de sympathisants. Il y a également dans cette partie est de l'Allemagne, d'ailleurs dans certaines régions, des connexions personnelles, intellectuelles, idéologiques entre le mouvement Pegida et le parti politique alternatif pour l'Allemagne.
Alors, Jean-Yves Camus, on évoquait avec Pascal Thibault cette proximité entre Pegida, un mouvement, et l'AfD, un parti, en Hongrie, avec Liz Herman, entre un parti qui est au pouvoir, le Fidesz, et puis un autre parti, le Jobbik, qui est lui, carrément d'extrême droite. Cette porosité, elle existe entre les différents partis qui influencent l'autre.
Oui, cette porosité existe. Elle existe d'abord au plan personnel. Pascal Thibault le soulignait, dans des milieux qui sont tout de même, en tout cas avant leur ascension électorale, assez confinés au plan du nombre de militants. Il y a des cas de double appartenance, des cas de proximité personnelle. Il y a des parcours personnels de gens qui, venus de l'extrême droite la plus radicale, se reconvertissent ensuite dans des formes plus parlementaires, j'allais dire plus présentables d'action politique. Mais dans le cas de l'Allemagne, il y a avant tout quelque chose qui me frappe, c'est que on n'avait pas réalisé, avant l'émergence de Pegida, le fait qu'au fur et à mesure que le souvenir de la guerre passait, il y avait naturellement un espace qui se libérait à la droite de la CDU, et que l'attitude de Mme Merkel sur la question des réfugiés a sans doute agrandi. En Allemagne, du fait de l'histoire, il y a une réticence très forte à exprimer des positions nationalistes, xénophobes, que ce soit sur la crise des migrants, sur la question de l'immigration, sur celle du multiculturalisme. Et puis, au fur et à mesure, évidemment, que les faits s'estompent et que les générations changent, eh bien, un certain nombre de choses qui ne pouvaient absolument pas être dites, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce pays, il y a une trentaine d'années, deviennent maintenant audibles audible.
On ose les dire.
On ose les dire. Et si l'on est un peu malin et que l'on arrive à rester dans les clous de ce que la loi fondamentale allemande impose, puisqu'elle interdit absolument toute reconstitution du Parti national-socialiste et qu'elle réprime très sévèrement toute apologie du national-socialisme, si l'on est un peu malin et qu'on arrive à formuler cet ethnocentrisme et cette xénophobie de manière à passer au travers des mailles du filet juridique, eh bien, on a incontestablement un impact. Cet impact, il est plus fort, effectivement, dans les Länder de l'ancienne Allemagne de l'Est, qui cumulent à la fois une situation économique parfois plus compliquée qu'à l'Ouest, une habitude du multiculturalisme qui est sans doute moindre, une demande autoritaire qui est plus forte, tout simplement parce que les gens qui ont été élevés dans cette partie du pays ont toujours connu des structures autoritaires de maillage social, et en sont quelque part nostalgiques face à l'anomie qui résulte de la mondialisation. On sait d'ailleurs depuis longtemps que la République démocratique allemande, même si elle niait farouchement qu'il existe une quelconque trace de mouvement d'extrême droite en son sein, devait déjà faire face aux premières manifestations de violence raciste avant la chute du pays, avant la réunification. Le régime communiste allemand avait ses skinheads, il avait ses activistes néo-nazis, il avait ses violences contre, vous savez, les étudiants des pays frères qui venaient faire leurs études à Berlin-Est ou à Dresde à l'époque, et dont le sort n'était pas nécessairement les plus enviables. Et c'est la crise des réfugiés qui a véritablement réactivé cette demande d'autorité et de xénophobie, avec oui davantage d'acuité du fait du tournant que Madame Merkel a pris, puisqu'elle a adopté une stratégie sur laquelle elle est revenue ensuite extrêmement ouverte sur les questions du multiculturalisme et de l'accueil des réfugiés. Et là, au sein de son propre parti, eh bien il y a une réaction qui s'est mise en place. Il y a personne pour l'incarner face à elle. Son leadership est trop hégémonique. La succession n'est pas encore totalement ouverte, mais il est probable qu'il y ait un espace à prendre à droite de la CDU.
D'un mot, Liserman, cette capillarité entre le Fidesz et le Jobbik s'explique entre autres par une nostalgie de la Grande Hongrie à l'époque où Budapest était une des deux capitales de l'Empire austro-hongrois.
Oui, enfin, je pense que c'est un peu plus complexe que ça.
Mais c'est un point de départ.
Oui, c'est un point de départ. Je pense que contrairement à la France et l'Allemagne, il y a un souvenir qui est biaisé de cette période parce qu'il n'y a pas eu de débat démocratique ouvert sur le fascisme, sur la Shoah, du fait justement du régime communiste et d'une dictature qui a duré 40 ans. Du coup, ce passé, il n'a pas été digéré. Et il reste une nostalgie tout à fait, enfin c'est plonger l'extrême droite, plonge ses racines dans cette tradition conservatrice et nationaliste de l'entre-deux-guerres, tout à fait. Je pense qu'il y a une chose à rajouter par rapport à ça, c'est que c'est aussi une identité qui se construit sur la base d'un certain souvenir du régime communiste aussi, parce que le nationalisme était, si vous voulez, dans une forme de résistance sous le communisme, donc par exemple l'appartenance religieuse ou les traditions conservatrices étaient réprimées pendant cette période. Et du coup, maintenant, il y a aussi un retour de ces choses-là en réaction, avec un positionnement vis-à-vis de la gauche, du centre-gauche actuel, qui est représenté comme incarnant toujours cette tradition communiste, si vous voulez.
J'aurais aimé vous vouliez ajouter un mot, juste un mot.
Oui, alors je me souviens avoir prié dans la synagogue de Budapest avant la chute du communisme. Il y avait quelque chose d'assez exceptionnel en Hongrie à l'époque communiste, c'est qu'il y existait, c'était un cas unique dans le bloc de l'Est, une école rabbinique, une synagogue en activité, et une liberté quand même qu'on ne trouvait pas dans les autres, pour les juifs, qu'on ne trouvait pas dans les autres pays de l'Est. D'une certaine manière, ça accrédite la croyance de l'extrême droite dans le fait que les juifs sont toujours assimilés d'une certaine manière à ceux qui ont amené en Hongrie la révolution et le désordre au sortir de la Première Guerre mondiale.
On va faire une petite pause après cette notion historique que vous avez développée, Jean-Yves Camus. Une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières infos, et on se retrouve dans 3 minutes très exactement. A tout de suite.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Partout en Europe, sauf à de rares exceptions, les partis populistes et de droites extrêmes progressent, dopés par l'arrivée des migrants et des réfugiés, la droite radicale s'enracine sur notre continent. Mais tous les partis d'extrême droite ne se rassemblent, ne se ressemblent pas, même s'ils sont tous nationalistes, eurosceptiques, anti-immigration et vent debout contre le multiculturalisme. La crise économique et le chômage n'expliquent pas tout. Le succès des partis de droites extrêmes repose aussi, et peut-être d'abord, par le sentiment d'une perte d'identité des Européens. Je vous représente rapidement les invités qui ont bien voulu prendre place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Jean-Yves Camus, politologue, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Son dernier livre est paru au Seuil. Son titre, Les droites extrêmes en Europe. Liz Hermann, doctorante et enseignante au LSI London School of Economics, qui a beaucoup travaillé sur l'extrême droite en Hongrie. Et elle est en ligne de Budapest et à Berlin. Pascal Thibault, le correspondant de RFI en Allemagne. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Courrier International qui ausculte le monde à travers sa presse. Bonjour Solveig Graham Jensen.
Bonjour Daniel.
Le grand quotidien norvégien Aftenposten s'inquiète de l'apparition dans plusieurs villes de Norvège de groupes plus ou moins paramilitaires qui se veulent milices d'autodéfense de la population, mais qui portent le nom de soldats d'Odin, le dieu mythique de la mythologie nordique.
Oui, ils s'inquiètent parce qu'en fait, ces petits groupuscules qui se nomment en effet soldats d'Odin sont en effet des gens très liés s'ils ne viennent pas directement du milieu d'extrême droite. Par exemple, le fondateur du mouvement en Norvège, il est aussi proche de la version norvégienne, on peut dire, de la mouvance Pegida qui a commencé en Allemagne.
Quelle est l'activité de ces soldats d'Odin? Ils patrouillent dans les rues, qu'est-ce qu'ils font?
Mais justement, ils patrouillent dans les rues la nuit, en fait, quand ça leur arrange. Ils sont dans plusieurs petites villes norvégiennes et ils disent qu'ils veulent protéger les citoyens. Par exemple, s'ils voient de la vente de drogue ou un viol, même s'ils ne pensent pas voir cela, ils ont dit « on va le filmer, on va donner nos informations à la police ». Donc, ils se mettent quelque part au même niveau que la police, même s'ils ne disent pas vouloir directement intervenir, sauf si un citoyen a vraiment en danger. Donc, ils ne disent pas vouloir diriger ou gérer la loi. Ils veulent donner leurs informations à la police, mais ils se mettent néanmoins au même niveau parce qu'ils veulent eux-mêmes décider quand et où ils veulent patrouiller.
Derrière l'idée de protéger la population des voleurs, des vendeurs de drogue, il y a aussi l'idée de lutter contre les migrants et les réfugiés.
Quelque part, c'est presque leur raison d'être ou leur raison de commencer, on peut dire. Même si ils ne le disent pas, leur principale raison d'avoir été créé, on peut dire, c'est en effet le grand nombre de réfugiés qui sont arrivés en Europe, aussi en Norvège. Donc, eux, quand ils disent qu'ils veulent protéger leurs concitoyens, en effet, c'est sous-entendu parce que la police ne peut plus. Il y a trop de réfugiés, il y a trop de manque de sécurité. La police ne peut plus assurer. Nous voulons faire ce travail dont ont besoin les citoyens, mais que la police n'assure plus.
Alors, ils font un petit peu peur, notamment, ils sont habillés de noir avec un drôle de symbole dans le dos.
Exactement. Dans le dos, ils ont en effet la tête d'un viking. On peut imaginer que c'est Odin, bien sûr, le dieu nordique ou scandinave nordique. Et il a bien sûr des cornes. Il a l'air très en colère. Et il dit en anglais « Odin soldiers » sur le dos. Et donc, c'est bien sûr pour faire quelque chose comme un uniforme, même s'ils ne disent pas être militaire et pas utiliser de la force. C'est bien évident pour montrer qu'ils sont ensemble là pour protéger leurs concitoyens.
Merci Salva, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Les soldats d'Odin ne vous sont pas inconnus, Jean-Yves Camus?
Non, enfin, je ne les connais pas très bien, parce que c'est un mouvement d'apparition récente, mais leur principe est assez bien connu. C'est celui des milices citoyennes dont les États-Unis regorgent et qui effectivement essayent de se substituer ou du moins de se mettre au même niveau que les forces de l'ordre en arguant du fait que les forces de l'ordre sont soumises à un État dont la légitimité est contestée et que par conséquent elles n'assurent plus leur mission de protection du citoyen ordinaire. Alors cette idée de se substituer aux forces de l'ordre, outre le fait qui est évidemment totalement inefficace contre les agressions qui peuvent survenir, renvoie à cette constante de l'extrême droite qui consiste à frapper d'illégitimité les gouvernements en place et à penser qu'au fond, ces gouvernements non seulement agissent contre l'intérêt du peuple, mais même on arrive à sciemment cacher au peuple un certain nombre de vérités. On a vu par exemple, et là ça nous renvoie directement aux patrouilles du style soldat d'Odin, apparaître après les incidents, les agressions de Cologne, au début de cette année, un certain nombre de théories du complot qui expliquaient que la police sciemment n'avait pas agi, et que une fois que les agressions étaient passées, elle avait rajouté encore un complot à son inaction, qui était ce qu'on appelle « cover-up » en anglais, c'est-à-dire le fait de maquiller, d'étouffer la réalité des faits pour pouvoir préserver le politiquement correct face à la réalité que serait le côté criminogène, intrinsèquement criminogène des migrants.
D'une manière générale, est-ce que vous diriez que l'extrême droite est passée d'un anti-sémitisme très violent, très fort, c'était vrai dans l'entre-deux-guerres, au lendemain de la guerre, à un anti-islam qui aujourd'hui domine?
Tous les cas de figure sont possibles. Il existe évidemment toujours des groupes dont l'antisémitisme est la raison d'être, antisémitisme maquillé en antisionisme, puisque pour des raisons légales, dans la plupart des pays, l'antisémitisme est réprimé, mais par contre, la critique de l'État d'Israël, comme c'est compréhensible, ne l'est pas. Et ensuite, oui, il existe, singulièrement depuis les attentats du 11 septembre 2001, qui marquent véritablement un tournant, un changement dans la désignation de l'ennemi principal. Le changement dans la désignation de l'ennemi principal, il se fait à la faveur de la montée en puissance de l'islam radical en Europe, d'une part, mais aussi à la faveur de la disparition de l'ennemi héréditaire,
historique,
sur plusieurs historique de l'extrême droite, qui est le communisme. Il n'y a plus d'ennemis civilisationnels avec la chute du communisme. Alors il faut en définir un, il faut trouver une cause efficiente à tous les maux de la terre. Alors la théorie du complot juif est là tout de même un petit peu de plomb dans l'aile du fait de ce qui s'est passé sous le régime national-socialiste. Par contre, le racisme anti-musulman, lui, il est beaucoup plus acceptable. On a, en dehors même de ce que l'extrême droite en dit, de la façon dont il l'utilise, des enquêtes d'opinion assez terribles qui montrent que, y compris dans notre pays, l'image de l'islam est singulièrement plus mauvaise que celle des autres religions. Donc, cette acceptabilité des opinions racistes lorsqu'elles sont émises à l'encontre des personnes d'origine, je dis bien d'origine culturelle musulmane, fait que à droite de la droite, avec Monsieur Wilders, avec effectivement Pegida, avec d'autres mouvements en Scandinavie, c'est l'islam qui a été désigné dans la période post 2001 comme l'ennemi civilisationnel de l'Europe.
L'islam est donc aujourd'hui l'immigration, bien évidemment.
Oui, les réfugiés.
Les réfugiés.
Oui, les réfugiés.
En Allemagne, c'est évidemment le premier argument est de l'AFD, c'est devenu le premier argument, et bien sûr de Pegida, Pascal Thibault, l'anti-immigration.
Oui, effectivement, bien sûr, c'est un argument très important depuis en plus l'arrivée massive de réfugiés depuis l'été dernier en Allemagne. Ces partis surfent sur ce thème pour rejeter l'étranger, rejeter l'islam qui constituerait un danger. On a encore eu bien sûr une exploitation encore accrue de ces thèmes après les événements de Cologne dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Aussi la défense d'une identité qui civilisationnelle qui se remise en cause par ces éléments étrangers. Il y a aussi d'autres thèmes. Il y a aussi, on l'entendait à l'instant, dans la voix de Jean-Yves Camus, le fait de rejeter la légitimité du gouvernement, des élus, bien sûr celui d'Angela Merkel, qui ne représente pas ce que la population souhaiterait, d'où aussi l'exploitation assez éhontée du slogan de la révolution pacifique de l'automne 89 en Allemagne, « Wir sind das Volk »,« Nous sommes le peuple », slogan que l'on entend souvent dans les manifestations Pegida ou de l'AFD, c'est-à-dire « Nous sommes le peuple », alors que eux à Berlin, eh bien, ils ne représentent pas le peuple. Et puis aussi, à une très grande désaffection, une critique très radicale des médias, mainstream, c'est ce qu'on disait aussi à l'instant, qui ne sont pas, qui dissimulent la réalité par souci du politiquement correct, et on les accuse bien sûr de couvrir les méfaits que commettraient ces hordes de sauvages qui envahissent l'Allemagne, et on voit aussi que c'est d'ailleurs utilisé, et que ça profite aussi aux médias russes, qu'un certain nombre de ces milieux populistes, complotistes, souverainistes de droite en Allemagne lisent et écoutent régulièrement, parce que là, on a une voix, enfin, qui correspond à la réalité qui est la leur.
Georges Camus, nous sommes le peuple, dit Pegida, en opposition, évidemment, aux élites forcément corrompues.
Exactement. L'un des schèmes de pensée centraux de l'extrême droite, c'est le peuple qui naturellement aurait la préscience de son intérêt et de l'intérêt national versus les élites qui profiteraient de leur position dominante. Alors les élites politiques, économiques, sociales,
culturelles,
qui profiteraient de leur position dominante pour, détourner l'intérêt général à leur profit, d'abord, s'en mettre plein les poches, pour faire court, et pour promouvoir une sorte de dictature soft, dans laquelle la voix du peuple serait étouffée, puisque le peuple, c'est le bon sens. Et pour garder le pouvoir, il faut effectivement étouffer le bon sens et imposer une sorte de chape de plomb du politiquement correct.
Hongrie, Lise Herman, le thème des migrations, de l'afflux des réfugiés, c'est un thème majeur qui plaît au Jobbik, qui plaît aussi au Fidesz et à Viktor Orban, alors que paradoxalement, il y a très très peu de réfugiés, de migrants en Hongrie.
Oui, et puis bon, il y a très peu de réfugiés en Hongrie, mais il y en a énormément qui ont transité vers la Hongrie, et ça a fourni une manne de popularité incroyable pour le Fidesz, qui était à son plus bas il y a un an et qui a gagné plus de 10 points de popularité. Aujourd'hui, on est autour de 35% d'appui dans la population. Et puis paradoxalement, le Jobbik n'a pas réussi vraiment à capitaliser sur cette crise du fait, comme Jean-Yves Camus le disait, il y a cette position contestataire vis-à-vis des élites qui est propre à l'extrême droite et qui permet aussi son succès, parce que en tant que vote protestataire, mais cette possibilité est retirée d'une certaine manière en Hongrie parce que le Fidesz a fait tout ce que un parti d'extrême droite aurait fait d'une certaine manière en érigeant les barrières, en se positionnant vis-à-vis de l'Union européenne comme le protecteur des valeurs chrétiennes et de la civilisation occidentale. Donc d'une certaine manière, le Jobbik s'est fait tirer le tapis sous le pied et n'a pas pu capitaliser, donc il stagne, voire baisse dans l'opinion publique depuis un an.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, les droites extrêmes en Europe. Nous sommes avec Jean-Yves Camus, politologue, chercheur associé à l'IRIS. Son dernier livre, Les droites extrêmes en Europe. Lise Herman, doctorante et enseignante au LSE, London School of Economics. Et à Berlin, Pascal Thibault, le correspondant de RFI. Jean-Yves Camus, qui sont les militants et les électeurs de ces partis? Si les militants adhèrent à l'idéologie d'extrême droite, les électeurs, pas forcément.
Alors les militants adhèrent à l'idéologie, oui, enfin c'est le moins qu'on peut demander d'eux, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas, notamment dans les groupes les plus radicaux, je pense en particulier à la mouvance skinhead, qui a été beaucoup étudiée de ce point de vue-là, un aspect famille de substitution, hein, un aspect ancrage dans le groupe, chez des gens venant de familles déstructurées, manquant de repères, qui ce sont des adolescents ou des très jeunes adultes, et qui souvent ont une phase de socialisation dans ce type de mouvement pour ensuite en sortir lorsqu'ils rentrent dans la vie active et qu'ils fondent une famille notamment. Ça, c'est un schéma qu'on connaît bien.
C'est presque le pendant des candidats au djihad en France ou ailleurs.
Écoutez, le parallèle est assez compliqué à faire, mais ça ne manque pas de points de convergence, même si évidemment, rappelons-le, il n'existe pas, mis à part le cas Breivik et un certain nombre d'autres de moindre effet, de capacité terroriste majeure de l'extrême droite en Europe. Et alors, ça c'est donc pour les militants, effectivement, ils viennent parce que ils se retrouvent dans l'idéologie qui est défendue. Pour les électeurs, c'est beaucoup plus compliqué.
Ils sont parfois très nombreux, jusqu'à en France ou jusqu'à 30% à peu près de l'électorat. C'est vrai aussi aux Pays-Bas pratiquement.
C'est vrai en Suisse, l'Union démocratique du centre. Il y a des sociologies très différentes d'un pays à l'autre. Mais on a bien vu dans les années 90 notamment comment ces partis ont réussi à conquérir une quasi-majorité de l'électorat, alors là je fais une distinction très importante, de l'électorat ouvrier et des classes populaires qui se déplacent pour aller aux urnes, et non pas de l'électorat ouvrier tout court. Le Front National, par exemple, n'est pas le premier parti chez les ouvriers de France. Le premier parti, c'est l'abstention. Mais c'est le premier parti, et de loin, chez ceux qui votent. Donc, il y a eu, à un moment donné, un peu partout en Europe, un décrochage entre les classes populaires et la gauche, notamment la gauche lorsqu'elle gouverne, lié au fait que la gauche a dû aussi s'adapter aux conditions de la globalisation et aux valeurs du libéralisme. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de pays. Il ne faut pas s'imaginer que le vote d'extrême droite est uniquement celui de nostalgie, étant en position sociale d'être nostalgique d'un ordre dans lequel il dominait tout. Sinon, ça ne ferait pas 30%.
Dans ses royalistes, dans ses fascistes,
ça fait absolument
de
pas.
Oui, pour la France,
ou de réactionnaires qui souhaitent vivre dans une société de privilèges. Ça ne fait jamais un tiers des suffrages. Donc il y a effectivement un vote des classes populaires, mis à mal par la globalisation et par ailleurs ayant aussi, je crois, un souci existentiel avec l'identité nationale et avec l'identité européenne. Parce que malgré tout, regardons bien ce que propose l'Union européenne en termes de contenu identitaire. Et identitaire, chez moi, n'est pas un mot péjoratif. Quelles sont les conditions pour être européen ? Qu'est-ce que c'est que la civilisation européenne ? L'Union européenne ne nous le dit pas. Elle nous explique que c'est un espace, de vivre ensemble, que c'est un espace de économique, mais au fond, il n'y a jamais de définition positive.
Un marché et un espace de libre circulation.
Tout à fait. Mais alors, est-ce que c'est une identité ayant des racines chrétiennes ? Il existe à droite des partis qui souhaitent que ce lien entre le christianisme et l'Europe soit inscrit.
C'était d'ailleurs un élément du débat de la Constitution de 2005.
Bien sûr. Et est-ce que cela veut dire que seuls sont européens les gens qui peuvent prouver une ascendance européenne, et si oui, à partir de quand ? Et j'allais dire à quel degré ? Parce que nous sommes quand même, pour beaucoup d'entre nous, à une génération ou à une autre, métisse de quelque chose et de quelque part. Où s'arrête l'Europe ? Vous voyez, cette idée que l'on peut toujours l'étendre davantage, que ce soit à la Turquie ou encore davantage à l'Est, elle questionne aussi beaucoup de populations en Europe qui se disent, mais le lien culturel dans tout cela, il disparaît un petit peu devant la notion de l'Europe espace de marché. Donc ce sont des questionnements qui sont légitimes. Ce qui pose problème, c'est la manière dont l'extrême droite y répond, c'est-à-dire par une vision ethnicisante de la société, non seulement une vision ethnicisante de la société, mais par une identité qui, encore une fois, est fantasmée. L'identité française, contrairement à ce qu'ont pu dire à un moment donné certains dirigeants d'extrême droite, n'est pas invariante depuis Clovis, elle n'est pas née avec Clovis, les historiens sérieux le savent, et elle remonte encore moins aux Gaulois ou aux civilisations de la proto-histoire. Donc, à un moment donné, c'est ce qui met aussi un petit peu d'essence dans le moteur de ces droites extrêmes, c'est cette espèce de flou artistique, me semble-t-il, que les institutions européennes, qui peuvent dire que ça n'est pas leur travail, entretiennent sur comment doit-on définir ce que c'est qu'un Européen, si tant est qu'il soit obligatoire de définir un espace normatif.
Ce qui veut dire que les électeurs de ces droites extrêmes sont des gens un peu déracinés, perdus dans cette mondialisation, sans frontières, sans point de repère.
Mais on est tous naturellement déboussolés par une époque où l'instantanéité de l'information fait que nous savons, à cette minute même, par nos écrans de télévision et nos tablettes, ce qui se passe à l'autre bout du monde. Vous savez, moi je viens d'une famille qui vivait en Bretagne, et en consultant la généalogie, je me suis aperçu qu'au fond, eh bien, mes ancêtres n'avaient pas beaucoup bougé en 4 ou 5 siècles d'un rayon de 50 kilomètres autour de leur village d'origine. Et probablement qu'ils n'ont pas lu le journal avant le 19e siècle, et donc ils ne savaient pas grand-chose de ce qui se passait au-delà de leur chef-lieu de canton ou à la rigueur de leur chef-lieu de département. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la possibilité d'avoir, j'allais dire, une transparence totale de ce qui se passe dans le monde entier. On avait un espace-temps auparavant. Je rappelais il n'y a pas très longtemps que lorsque Napoléon a débarqué à Golfe-Juan, au retour de l'île d'Elbe, la nouvelle a mis 48 heures pour monter à Paris et elle a mis 5 jours pour atterrir à Toulouse. Aujourd'hui, s'il se passe quelque chose à Sydney, dans la minute, vous allez le savoir. C'est un chamboulement considérable des mentalités, notamment pour celles et ceux qui n'ont pas nécessairement le niveau d'éducation, le niveau d'accès aux médias.
Pour qui ce chamboulement fait un peu peur.
Ben oui, naturellement, puisqu'en plus, ça intervient dans une phase où, économiquement, le statut de chacun, et pas seulement celui de la classe ouvrière, est tout de même mis à mal. Personne ne peut plus garantir aujourd'hui, même parmi les cadres moyens, et même d'ailleurs parmi les cadres supérieurs, qu'il peut promettre à ses enfants d'avoir le même niveau de vie et le même ascenseur social que celui dont il a bénéficié.
Longtemps, Jean-Yves Camus, les partis d'extrême droite ont été les partis de protestation. Est-ce qu'ils sont appelés à être des partis de gouvernement? Certains sont déjà au gouvernement, c'est le cas du Danemark, ça pourrait être le cas d'autres pays.
Ah, c'est le cas, faisons un bilan rapide, des vrais Finnois en Finlande, du Parti du Progrès en Norvège, ça a été le cas donc du Parti du Peuple Danois, de la Ligue du Nord en Italie, de l'Union Démocratique du Centre en Suisse, du Parti de Monsieur Haider dans les années 2000, et d'un certain nombre d'autres encore. Donc, ce ne sont plus des partis qui sont confinés à la posture d'outsider du système. Il existe effectivement une part de protestation dans leur affirmation électorale, mais au-delà, je crois qu'on aurait tort de négliger également l'aspect adhésion à des valeurs très simples, qui peuvent paraître simplistes à certains, mais qui n'en est pas moins une adhésion à l'idée que j'énonçais tout à l'heure, selon laquelle, eh bien, il doit y avoir une différence qui est faite, notamment dans l'accès aux droits civiques, économiques et sociaux, entre les nationaux, entre ceux qui sont d'ici et ceux qui sont d'ailleurs. C'est une idée qui est née au nord de l'Europe dans les années 80-90, cette idée selon laquelle les immigrés, les réfugiés sont au fond des touristes sociaux, qui depuis Islamabad ou la Somalie font leur marché, comparent un petit peu les aides sociales à droite et à gauche, et se disent à un moment donné, au terme d'une stratégie raisonnée, bah tiens, je vais aller là parce que c'est là qu'il y a le plus à prendre. Donc il y a cette xénophobie est assez rationalisée. Il y a évidemment la protestation contre les élites. Mais la protestation contre les élites, elle n'est pas nécessairement illégitime. Il peut aussi y avoir des errements des élites. Lorsqu'on demande au peuple de voter sur la Constitution européenne, et que dans certains pays, y compris le nôtre, il s'exprime contre le texte qui lui est soumis, et que l'on ne tient pas compte de l'avis du peuple, on alimente évidemment la machine à fantasmes quant à ces élites qui volontairement feraient le contraire de ce que leur peuple demande. Donc, il n'est pas illégitime non plus de se demander si à un moment donné, il n'y a pas une réelle déconnexion entre le peuple et les élites, qui a été une des raisons pour laquelle, de bonne foi, une partie des électeurs de ces formations pense qu'il y a un problème.
Alors, une des composantes aussi de cette extrême droite, c'est qu'elle agit beaucoup sur les droites, qu'elle droitise le discours politique. C'est vrai en France, mais c'est vrai presque partout en Europe aussi.
Bah, c'est une situation classique de présence concurrentielle sur le marché électoral, où effectivement, pour reprendre l'exemple hongrois dont parlait Liserman, à un moment donné, Fidesz, qui a le pouvoir et entend bien le conserver, est obligé de tenir compte quand même des propositions de son adversaire. Il faut lui couper l'herbe sous le pied, parce que bien évidemment, si jamais le discours et les actions du gouvernement ne donnent pas quelques gages à la frange la plus droitière de l'électorat, ben, au bout d'un moment, on peut avoir une situation où Fidesz est mise en danger par son adversaire de droite. On a vu la même chose se produire d'ailleurs en France d'une certaine manière, où, notamment pendant les années 90, la grande erreur des formations politiques qui ont été au pouvoir a été d'avoir le FN comme en quelque sorte astre solaire du spectre politique, ce qui permettait de mettre sous le tapis un certain nombre de sujets dont on disait « Ah mais c'est le FN qui en parle, par conséquent, sauf à être contaminé par lui, il faut pas en parler ». Mais à un moment donné, la réalité vous rattrape. Et quand vous avez passé 20 ans à ne pas en parler, eh bien, d'une part, le FN est passé de 10% à 15%, de 15% à 20%. Et puis, d'autre part, vous êtes bien obligé aussi de donner des gages à la fraction la plus droitière de votre électorat.
Alors, ce qui caractérise aussi les partis d'extrême droite, c'est leur diversité, leur côté groupusculaire. Rien qu'au Parlement européen, ils se retrouvent dans trois groupes. Il y a le CR, le FD, le NF. Il y a toujours une tentation à la querelle de chapelle dans les mouvements d'extrême droite. Est-ce que, malgré tout, l'extrême droite en Europe a un bel avenir devant elle?
Admettant que demain matin elle n'existe plus, on pourrait déjà dire qu'elles ont eu, par rapport à ce qui leur a été promis en 1945, un beau passé. Parce que tout de même, je me souviens que mes cours de sciences politiques étaient censés m'apprendre que cette famille était morte. Qu'après les horreurs du fascisme et du national-socialisme, l'extrême droite avait été totalement marginalisée à la Libération. Or, il n'en a rien été. Ça, c'est le premier enseignement à retenir. Est-ce qu'il y a un avenir? Oui. Pour les formations radicales qui restent sur l'invariance de l'extrême droite, certainement pas. C'est d'ailleurs ce qui fait la stratégie adoptée par Marine Le Pen à la tête du Front National. pour les mouvements qui réussiront, au contraire, à s'adapter à la démocratie telle qu'elle fonctionne, au jeu parlementaire, et qui réussiront à infléchir l'agenda politique des formations de droite classique jusqu'à permettre des alliances qui les amèneraient à participer au pouvoir, participer. Moi, je ne crois pas à l'arrivée d'un parti d'extrême droite seul, mais participer au pouvoir, oui, c'est sans doute plausible.
À condition, évidemment, qu'on brise le tabou. En France, par exemple, aujourd'hui, les partis de droite n'envisagent pas, en tout cas aujourd'hui, de gouverner avec le Front National.
En France, non, mais il y a une possibilité qui existe aussi et qui, moi, m'importe autant que le fait de savoir si demain, des gens possédant une carte de membre du Front National siégeront au gouvernement, c'est de savoir si, à un moment donné, ces partis ne peuvent pas gagner tout en disparaissant ou tout en étant marginalisés.
À travers leurs idées.
Gagner dans la mesure où la droite aurait repris leur logiciel idéologique et perdre dans la mesure où ça n'est pas ces partis qui seraient effectivement au gouvernement, parce que malgré tout, il y a une charge de négativité qui leur reste attachée de par leur filiation, de par cette étiquette sparadrap d'extrême droite. Ça n'empêche pas pour autant d'avoir tellement distillé ces idées dans l'ensemble du corps social qu'à un moment donné, elles soient portées par d'autres.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour d'Europe. Jean-Yves Camus, je rappelle le titre de votre livre, Les droites extrêmes en Europe, paru au Seuil. Sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe, RFI, des infos sur nos invités. Réalisation de Carrefour de l'Europe, Nicolas Benita. Pour écouter cette émission en podcast, RFI.fr ou les applis mobiles, mais gratuites de RFI. On reste en contact, bien sûr, via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez, en Europe ou ailleurs dans le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.